Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée. Déjà, merci beaucoup pour les 200 000 abonnés. On a appris cette bonne nouvelle, ça nous a fait grand plaisir, parce que c'est vrai que cette aventure dure depuis quelques années, mais aussi.
Ouais, en plus c'était symbolique, parce que du coup, bah, on les a atteints à Vegas, pour Nate Diaz, pour la dernière, contre Tony Ferguson maintenant, on va parler de tout ça.
Merci beaucoup. Ouais. On va revenir, donc revenons à nos moutons, parce que je pense que les gens ils sont... Allez les gars, on perd du temps.
On perd du temps, vous perdez déjà du temps.
On parle de l'UFC 279 parce qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Changement de 3 combats, changement aussi de co-main event en termes de round, il y a plein de mecs qui ont manqué la pesée. On va vous expliquer tout ça, on va vous parler du Karamzat aussi. Swear.
Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari.
Très brièvement, on va commencer par les affaires courantes. Donc il y a Chris Barnett déjà qui a manqué le poids. Donc chez les lourds, c'est suffisamment rare pour être mentionné. Donc à 267,5 livres. Donc il va donner 20% de son salaire à Jake Collier pour que le combat soit maintenu. On a aussi Hakim Davoudou qui combat en featherweight, qui est un des prospects, on peut dire maintenant, même si...
Un agitateur
de la catégorie featherweight. Donc il est arrivé à 149,5 livres et donc il va devoir donner 30% de son salaire à Julian Erosa. Enfin non, pardon, il a comme amende 30%, je sais pas s'il donne ensuite 30% à Julian Erosa, c'est ce que l'UFC nous a expliqué. Donc le combat contre Irene Aldana et Messi Chasson se déroulera en 140 livres, en catchweight à 140 livres. Bien, maintenant on va s'attaquer...
C'est qui déjà le champion catchweight? Et donc, non, mais parce qu'on a quelqu'un qui nous avait dit ça.
Et donc, champion catchweight, enfin, catchweight, c'est entre deux catégories de poids. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire un combat entre middleweight et light heavyweight, entre light heavyweight et heavyweight. C'est pas une catégorie. C'est pour ça que quand vous voyez catchweight, c'est pas une catégorie. Ça veut juste dire qu'ils se sont mis d'accord à un poids entre deux catégories. Ouais. Et donc, on a aussi, donc, le troisième combat. Donc, on a dit, on montait crescendo. Donc, Li Jingliang qui affronte finalement Daniel Rodriguez en catchweight, donc à 180 livres. Place au gros morceau désormais, à savoir Ramzat Chimaev qui a manqué le poids de plus de 3 kilos. C'est absolument monstrueux. Ouais. Encore plus monstrueux pour quelqu'un qui, là aujourd'hui, c'était un petit peu le combat qui était censé permettre, enfin, Nate Diaz contre Ramzat, à Ramzat de rouler sur Nate Diaz, de devenir une superstar et de montrer que c'était clairement lui le prochain à avoir le title shot. Tout ça, vous l'enlevez. Ouais. Et on se retrouve finalement avec Tony Ferguson contre Nate Diaz en main event, 5 rounds. Ramzat Chimaev contre
Kevin Holland,
5 rounds en co-main event.
Et c'est Kevin Holland qui a demandé les 5 rounds.
Et combat qui se déroula aussi en catchweight à 180 livres, puisque Daniel Rodriguez et Kevin Holland devaient s'affronter en catchweight initialement.
C'est vraiment comme quand tu mélanges les cartes, tu fais des jeux et tu mets tout ensemble, tu ressors. C'est vraiment ouf ce qui s'est passé quand même. Il y avait 3 combats de prévus et les 3 ont été modifiés pour arriver à un truc qui finalement, bah, c'est pas si déconnant. À part Ramzat contre Kevin Holland qui du coup n'a plus trop de sens puisque Ramzat vient d'affronter le numéro 2 à l'époque qui était Gilbert Burns et Kevin Holland dont on sait que affronter l'éditeur pour l'instant c'est un peu compliqué. Ça a été le gros problème de Kevin Holland, ça a été contre les gars qui peuvent le mettre au sol et l'y maintenir puisque lui c'est un striker et c'est un mec qui... Voilà, un petit peu comme les Carlos Condit, un petit peu comme tous ces gars-là qui sont connus pour être bons au sol et debout, mais pas forcément en lutte. Bah, Kevin Holland, il est même pas forcément connu pour être bon au sol, il est surtout connu pour être bon debout en striking. Donc, il le sait, Kevin Holland l'a dit lui-même, après la pesée, je crois que c'est du coup Joe Rogan qui lui demande « Alors du coup, est-ce que c'est pas mieux finalement d'affronter Ramzat ?» Et Kevin Holland était en mode « Franchement, non, mais on va quand même aller au charbon. » Ce qui est tout à son honneur. Enfin, moi, c'est pour ça que je suis archi fan de Kevin Holland. C'est parce qu'il est tellement réel aussi. Et en plus, c'est un truc que j'ai grave kiffé. C'est que là, il était vraiment... Il est tout le temps en train de déconner, de façon, Kevin Holland. Mais là, cette semaine-là, avec le bail avec Ramzat, il était vraiment il continue d'avoir le sourire parce qu'il a tout le temps le sourire, il continue de vanner parce qu'il vanne tout le temps, mais il y a quand même derrière le regard, tu sens un truc un peu plus sérieux que d'habitude, et qu'est-ce que c'est kiffant, je l'adore. Donc ça va être un combat qui, on a tendance à penser, si Khamzat veut que ce soit envoyé en quelques minutes, ça risque d'être envoyé en quelques minutes. Si Khamzat décide de faire durer un peu le plaisir, bah peut-être que ça pourra durer plus. C'est pour ça aussi que Kevin Holland voulait les 5 rounds, c'est parce qu'il espère, c'est ce qu'il a dit juste après la pesée à Manganovic, c'était que on l'a vu puiser un petit peu en termes de cardio dans les derniers rounds, dans le dernier round contre Gilbert Burns, donc il a envie de
l'amener là-bas. Le dernier round qu'il a quand même gagné après avoir perdu le deuxième.
Absolument, mais c'est vrai que voilà, et Gilbert et Khamzat étaient fatigués, et Kevin Holland est en mode, bon... Et en vrai, en soi, il a raison. Enfin, qu'est-ce qu'il a à perdre ?
Et puis, c'est le seul point d'interrogation concernant Khamzat aujourd'hui.
C'est pour ça. Donc, en soi, il a tellement raison d'avoir demandé ça, Kevin Holland, parce que c'est littéralement le... Ça ne lui coûte rien en plus. Et c'est peut-être un avantage qui se rajoute à la fin du compte, parce que, admettons que Khamzat n'arrive pas à le terminer, bah, peut-être, effectivement, s'il arrive à survivre sur les 4e et 5e rounds, qu'il peut peut-être tirer son épingle du jeu, Kevin, et c'est sur ça qu'il compte, et c'est intéressant. Et Khamzat... très bizarre, quoi.
Très, très bizarre, Big Rusty. Donc, ce qui s'est passé, selon nos sources, hein, c'est qu'en gros, il faisait son processus de cutting normal pour aller jusqu'au poids welterweight, sauf que, bah, il perdait plus de poids. Donc, au début, toute sa team mettait en mode, bah, c'est normal tout ce qui se passe. Ils ont commencé à s'inquiéter parce que, clairement, il prenait du retard, mais il s'est resté vraiment coincé. Ils ont fait plus ou moins une nuit blanche, et en gros, à 4h du matin, là, c'est Khamzat qui explique ça, c'est qu'à 4h du matin, un docteur est arrivé, lui a dit, bah clairement, tu vas t'arrêter, c'est terminé. Khamzat, lui, aurait dit au docteur, en tout cas, c'est les propos même de Khamzat, non, non, il n'y a pas de problème, moi, je peux faire le poids, mais le docteur a dit, non, c'est mort, c'est terminé. Et il s'est arrêté là, ce qui explique, un, bah, l'état dans lequel il a été à la pesée officielle le matin, à savoir, bah, c'était pas du tout quelqu'un qui était au bout de sa vie pour avoir tenté de faire le poids,
quoi.
Frais comme un gardon, et aussi le fait, à mon sens, qu'il ait manqué le poids d'aussi... bah, d'autant de kilos, tout simplement, parce que ça faisait quand même très longtemps, ça faisait quasiment 10 heures qu'on lui avait dit, bah non, ça sert à rien d'essayer de faire le poids.
Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on entend ça, d'avoir des combattants qui disent, ben, je fais mes pesées normalement et mes weigh-cuts normalement, et à chaque combat, ça se passe très bien. Et là, d'un coup d'un seul, mon corps refusait de lâcher la moindre goutte de sueur. Alors... moi, d'après ce que j'ai compris, en gros, ça peut être le corps qui, en fait, au bout d'un moment, comprend ce qui se passe. Et du coup, puisqu'il a déjà vécu des déshydratations extrêmement sévères par le passé, parce que on sait que Khamzat a quand même galéré dans certains de ses derniers combats, notamment, il a eu besoin de se mettre à poil et d'avoir la serviette.
Contre Li Jingliang.
Contre Li Jingliang. Donc, on sait qu'il y a eu des cuts très compliqués pour Khamzat. Et bah, y a des chances que ce soit tout simplement le corps qui l'a et dit stop complètement et qui est donc refusé malgré les saunas, probablement malgré les trucs avec des combinaisons en plastique dans lesquelles tu cours, etc., qui sont censés te drainer complètement toute ta flotte intérieure. Bah, visiblement, là, le corps a dit stop. Et bah, du coup, et tout simplement, bah, quand ils se sont rendus compte que ça n'allait pas être possible, bah, donc ils ont dû... j'imagine que la nuit même, ils ont envoyé un message à probablement la mort dans l'âme à Hunter Campbell et Dana White en mode... bah en fait, ça va pas le faire. Et bah du coup, on en est là. Alors, c'est fort possible. Et puis effectivement, du coup, la source dont tu parlais te l'a confirmé. Khamzat lui-même l'a dit ensuite à Megan O'Leary. Mais ça, à la limite, j'ai envie de dire, bah ça fait grave chier parce qu'en plus, il est en train de se faire exploser sur les réseaux sociaux. Il perd son main event, il perd son pay-per-view.
A raison qu'il se fasse exploser parce que l'attitude au global est assez surprenante.
C'est là où je voulais en venir.
Oh, pardon.
Je sais pas ce que toi t'en penses. Bah si, je sais ce que t'en penses parce qu'on en a parlé juste avant pendant qu'on mangeait. Mais bah, je sais pas ce que vous en pensez. Mais on est quand même très... on se dit, c'est pas forcément la meilleure attitude à avoir dans ces cas-là.
Et Rusty avait une théorie qui était très parlante.
Bah, tu vas me dire si c'est celle-là, je sais plus trop ce que j'avais dit, entre autres, mais en gros, bah, moi, j'avais l'impression, quand je voyais Khamzat à la pesée le matin, quand je l'ai vu à la pesée cérémonielle et tout, attention, analyse de comptoir. Vous êtes pas prêts?
Mais
voilà, bah, c'est ce que je pense. Mais j'avais vraiment l'impression, en fait, dans la manière dont il se comportait, Khamzat, de voir un peu un enfant à qui on a dit non pour un truc, il est dégoûté, mais il veut quand même montrer qu'il se laisse pas, il se laisse pas faire, il y a pas de problème, et du coup, il en rajoute de ouf, il surcompense de ouf en termes de comportement, en rigolant, en faisant comme si il y avait aucun problème, et voire même, regardez comme je me marre, je m'en fous. Enfin, tu vois, c'est un peu, il y a côté, je m'en fous. Et bah voilà, le coup du il arrive et il fait une vanne dès la pesée officielle du matin en mode bah c'est pas si grave, et en rigolant
aussi,
en faisant des fucks et des trucs comme ça. En fait, bah en tant que fan personnellement, et je pense que vous tous, c'était un peu énervant, c'est vrai, je vais pas mentir, c'était un peu énervant parce que on a envie d'avoir des gens qui sont autant investis que nous dans le sport qui nous passionne. Et quand t'as des réminiscences comme ça de trucs où tu sens, ou en tout cas la personne essaie de te montrer qu'elle s'en bat les couilles, bah c'est très frustrant. Et là, on a envie de se dire, bah prends ça au sérieux. On a envie de se dire, bah quand même, si, c'est un peu grave. Là, c'est quand même un combat du coup qui était prévu. Là, tu mets tout le monde un petit peu dans la panade. Et il avait l'air, donc en tout cas, moi j'avais vraiment l'impression qu'il en jouait et qu'il voulait montrer qu'il s'en fout, mais que je pense qu'au final quand même ça le fait. Bah, évidemment que ça le fait chier, enfin, tu perds déjà beaucoup d'argent. On sait que Khamzat, dans toutes les interviews, il est en mode, bah, l'important c'est aussi quand même de se mettre à l'abri de sa famille et donc de faire de l'argent. L'important c'est aussi d'affronter Nate Diaz, parce qu'il l'a dit, c'est quelqu'un pour lequel il avait beaucoup de respect, qu'il voyait combattre depuis qu'il était petit. Donc c'est sûr qu'il est dégoûté, mais... Perso, j'aurais préféré qu'il reste, parce que j'en suis convaincu qu'il est dégoûté et que c'est un peu un jeu qu'il fait là, devant les caméras, j'aurais aimé qu'il montre ça, en fait, presque. J'aurais aimé qu'il soit aussi dégoûté que nous, on est dégoûté, et que du coup, ben, entre guillemets, je pense que ça aurait un petit peu atténué la frustration qu'on avait. Et un autre truc qui était intéressant, et après j'arrête mon monologue, mais c'est que j'ai vu pas mal aussi de commentaires qui disaient le mec, il a fait un 100-0 en termes de
c'est popularité. Pas
de, ouais, de popularité auprès des fans en l'espace de 3 jours, parce que entre le délire avec Paulo Costa où oui. Du coup les gens étaient en mode plutôt Team Costa, parce que du coup Costa lui il était en mode bah ok vas-y on y va, il avançait, et il y avait beaucoup de mèmes, tu sais, en mode Khamzat a fait un petit peu le coup du retenez-moi les gars, retenez-moi, je sais pas, moi j'ai quand même tendance à penser que c'est qu'il s'en bat les couilles aussi Khamzat, et là du coup apparemment les histoires qu'on a eues de comment dire, de Khamzat qui va tout seul mettre un énorme front kick à Kevin Holland, apparemment c'est réel.
Vrai, ouais.
Et donc, bon, je pense quand même que ouais, c'est quand même un énorme baiser Khamzat, ça on peut pas lui enlever. Mais effectivement, dans la manière, dans l'image qu'il a donnée ces derniers jours, il y a eu quoi? Donc il y a eu le truc par rapport à Paulo Costa, il y a eu la pesée, et il y a eu un troisième autre truc.
Bah, un peu la conférence de presse.
Et la conférence de presse, oui, oui, exactement, et la conférence de presse qui ont fait que là, les gens sont en mode bon, enfin, à quoi tu joues, en fait? Je pense que le sentiment général, c'est tu fais quoi? Pourquoi? Pourquoi prendre ça comme ça? Pourquoi être comme ça? Mais donc voilà, c'est vraiment très intéressant. On en a eu, hein, des entre guillemets, des revirements de fans qui soit adoraient un mec ou une meuf avant et ensuite le détestent après un ou événements ou plusieurs assez resserrés. Ou l'inverse, on peut citer quoi? Bah, Masvidal récemment, qui est un peu tombé en disgrâce auprès des fans. Il y a eu Ronda Rousey, qui était adorée, et puis en l'espace de quelques combats, qui est devenu un peu détesté par son comportement par les fans. Il y en a qui ça a été l'inverse, Michael Bisping par exemple, qui était détesté des fans au début, et maintenant du coup les gens sont en mode putain quand même, qu'est-ce que c'était bien quand il était à la fin de sa carrière et machin. Donc voilà, ça va fluctuer, hein. Là Khamzat, effectivement il perd un petit peu des points en popularité.
Oui, mais en un combat, une performance, call-out, ça pourra revenir.
Un call-out, mais surtout moi j'ai envie de dire, au-delà du call-out et des performances, je pense que du coup ça va être la manière dont il va prendre du recul et parler de ce qui s'est passé qui va peut-être changer la donne. Il y a rien que les gens kiffent plus que les gens qui parlent de manière authentique et de la manière la plus honnête possible et avec du recul et en se remettant en question et tout. Enfin ça, c'est ce que les gens veulent voir, parce que c'est ce dont on s'inspire. Et je pense que c'est plutôt ça dont Khamzat aura besoin à l'avenir.
Wow.
Ben, c'est vrai ou pas, tu penses?
Je suis pas d'accord, Big Rusty, mais avançons. Non, je sais pas.
Non, c'est vrai?
Bah, je sais pas. En fait, moi, je pense vraiment que ça fait partie de ces... Le combat Kevin Holland contre... Parce que c'est ça aussi ce qui est important avec tout ce changement de carte, on en a toujours pas parlé, là. C'est que sportivement, les combats sont plus intéressants,
oui,
parce qu'il y a un petit peu plus de suspense. Et moi, je pense que Khamzat, en cas de victoire sur Kevin Holland, en fonction de ce qui va se passer pendant le combat, puisque les deux vont certainement se parler, enfin, on peut avoir un truc où les gens vont directement oublier ce qui s'est passé, se dire que mine de rien, Kevin Holland, là aussi, il préparait un catchweight. au-dessus de la catégorie welter. Donc, enfin, sur le papier, Khamzat, évidemment, Rusty vous l'a dit, grandissime favori, mais c'est un plus gros challenge que ce que, un challenge que ce que présentait Nate Diaz. Donc, je me dis, peut-être qu'en cas de victoire convaincante, et même si, tu vois, je sais pas, il s'impose par TKO au quatrième round et qu'il n'y a pas de baisse de régime et tout, les gens, ils se diront, bon, bah, ok, c'est un accident. Lui, en conférence de presse, il explique que effectivement, c'est un problème médical et que même aussi, parce qu'il n'y a toujours pas eu d'interview de Dana White là-dessus, qui dit, bah, effectivement, on avait ce problème-là, il ne pouvait pas, enfin, tu vois, qui est quand même le boss qui le défend un peu, je pense que les gens vont très vite passer à autre chose.
Tu trouves que c'est un plus gros challenge Kevin Holland que Nate pour Khamzat?
Ah oui.
Ah ouais, ah ouais. Bah pour moi, c'est pas si évident parce que Nate, il apportait le côté combat au sol que n'avait pas Kevin Holland.
Non, non, pour moi, vraiment...
Et pour toi, du coup, Kevin Holland étant meilleur debout, il apportait ça de plus?
Ouais, bah un, il y avait... Enfin, c'est ce qu'on se disait
étant
aussi...
Meilleur debout,
avait...
on sait pas, mais...
C'est ce qu'on se disait avec Rust aussi, c'est que... Kevin Holland, de base, c'est un enfin, welterweight, middleweight. Aujourd'hui, il est chez les welter, mais là... Quand il y a eu Khamzat qui a manqué le poids de 3 kilos, l'UFC s'est même pas dit... Enfin, très rapidement, c'était « il n'y a pas le combat contre Nate Diaz de toute façon ». Il y a une rumeur comme que Nate Diaz aurait accepté le combat s'il prenait la totalité du salaire de Khamzat. Mais...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon, globalement, c'était le camp Nate Diaz a dit directement c'est mort et l'UFC n'a pas poussé pour faire ce combat-là. Quand je dis l'UFC n'a pas poussé, c'est quand l'UFC a envie de faire un truc...
Ouais.
Ils y arrivent toujours. Donc, ça veut clairement dire qu'ils ont même pas essayé.
Ouais.
C'est même pas d'aller dans leur dernier retranchement, mais de rajouter 500 000 pour que Nate Diaz dise OK, non, ils ont très vite dit c'est terminé.
Ouais.
Et le fait que l'UFC abandonne ça, ça veut dire, à mon sens, moi, ça confirme ce qu'on pense depuis le début, c'est que Khamzat et Nate Diaz, c'est un middleweight contre un lightweight. Donc, ils n'ont rien à faire dans la cage ensemble. Et 3 kilos, pour un mec qui a quand même essayé un petit peu de cuter, c'est beaucoup quand on se dit que quelqu'un a loupé, mais c'est pas non plus un truc dinguissime. Et donc, ça montre bien qu'il y avait un problème de ce côté-là, et qu'en soit pour moi, hein, tu vois, c'est pour ça que Kevin Holland, sur le papier, est un plus gros challenge, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui pourrait, enfin, qui aurait dû, ou en tout cas, tu vois, si on m'avait dit, je sais pas moi, il y a 2-3 mois, 5-6 mois, avant qu'il y ait la rumeur folle, parce que c'était fou aussi, la première fois qu'on a vu ça, enfin, les images fuitées de Khamzat contre Nate Diaz, on aurait vu Kevin Holland contre Khamzat, on se dit, bah, pourquoi pas, enfin, ils sont pas dans la même dynamique aujourd'hui, mais pourquoi pas, ça a du sens. Nate Diaz contre Khamzat, c'était complètement dingue, mais surtout complètement dingue, parce qu'on était, mais comment c'est possible? Et même avec Russ, on se disait, le premier face-off, tout le monde va se rendre compte que, sur le papier, ah oui, en fait, c'est une très mauvaise idée, tu vois. C'est pour ça que, pour moi, ça peut être intéressant sportivement. Ce que je voulais dire aussi, et on n'en a pas parlé jusque-là, c'est le main event Tony Ferguson-Nate Diaz, où là aussi, après le co-main qui est en 5 rounds et qui est intéressant sportivement, pour le main event, c'est le flou complet.
Ouais.
Parce que là, c'est très difficile par rapport au premier main event initial, donc Khamzat contre Nate Diaz, de distinguer un vrai gros favori. Et sachant que les bookmakers ont bien changé là-dedans.
Ah, ils sont bien changés.
Ouais.
Non, mais c'est
au début, il y avait Nate Diaz et maintenant c'est Ferguson le favori.
Ah ouais?
Ouais.
Mais non.
Pardon, au début, c'était Ferguson le favori et maintenant c'est Nate Diaz.
Waouh. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, et là, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, c'est pour dire qu'au moins, ce sera plus compétitif. Donc toi, tu mettais qui déjà? Parce que moi, j'étais en mode, je pense, Nate Diaz.
Ouais, même. Moi, je mettais Tony Ferguson.
Oh yes, on n'est pas d'accord.
Mm.
Bah, moi, je mets Nate Diaz. Déjà, premièrement, je suis trop content pour les deux. En plus, petite anecdote, et je suis obligé de la sortir, c'est pas de moi du tout, c'est dans la conférence qu'a donné Tony Ferguson juste après. La fameuse, tu sais, pendant la bagarre, un peu l'échauffourée générale, il a raconté un truc, Tony Ferguson, mais c'est tellement stylé. En gros, donc, ils ont rien l'un contre l'autre, en fait, avec Nate Diaz. Tony et Nate sont plutôt potes. Et pendant la grosse mêlée générale, en fait, Tony raconte que... lui était en mode, il se baladait au milieu du chaos parce qu'il était en mode, vous allez rien faire de toute façon. C'est quand même déjà assez marrant. Et à un moment donné, il croise Nate Diaz, Tony, et en fait, il se balade toujours avec des chewing-gums. Et là, il croise Ned Diaz qui était en train de faire des gestes, apparemment, je sais plus trop quoi, et prêt à se la mettre et tout. Et t'as Tony qui arrive qui fait hey Nate, tu veux un petit chewing-gum à la menthe? Et du coup, Nate le regarde comme ça. Il fait attends, il vient faire. Alors, du coup, Tony dit il va faire 2-3 trucs comme ça, il fait des grands gestes, il repart un peu dans la mêlée. Et quelques secondes plus tard, il revient, il fait ouais, je veux bien un petit chewing-gum, merci. Enfin, c'est tellement légendaire, quoi, que deux mecs comme ça soient comme ça. Enfin, oh là là. Et donc, ça, c'est juste des anecdotes un peu croustillantes pour se faire plaisir parce qu'on les kiffe tous les deux. Mais déjà, un, donc, tous les gars, là, visiblement, les 6 concernés, ils ont pris un petit peu de bifton en plus. Et ça, ça fait salement plaisir. Et puis.
Sportivement, du coup.
Et puis, sportivement. Ouais, mais il faut le dire aussi. Parce que. Voilà. Et sportivement, bah ouais, ce qui est kiffant, c'est que c'est pas du tout aussi clair que ça. Moi, je mets Nate Diaz parce que j'ai quand même l'impression qu'il a que sa science de la boxe, parce que c'est surtout de la boxe que fait Nate, même s'il a quand même mis, il a quand même commencé à mettre des kicks, etc. Enfin, sur la dernière partie de carrière, mais c'est surtout de l'anglaise. Il est tellement précis, un timing excellent, tellement bon en combinaison. Il est tellement, il a tellement un style étrange, mais du coup qui a fait ses preuves, hein. Enfin, je veux dire, même s'il s'est fait quand même salement souiller pendant 4 rounds et demi, bah, il a quand même mis un knockdown au champion actuel Leon Edwards, et puis voilà, il a fait mal pendant toute sa carrière, et j'ai envie de dire, je ne sais pas, c'est l'inconnu, mais que Nate va peut-être réussir à toucher, bien toucher Tony debout.
Ok.
Parce que j'ai un peu la sensation que Tony a, ouais, voilà, il a un petit peu perdu quand même son mojo depuis quelques combats. Même si la performance commençait bien contre Chandler, il est quand même plus lent qu'avant. Et il n'est pas aussi incisif, il fait pas aussi mal, j'ai l'impression. Tandis que Nate, tu as toujours l'impression qu'il est un peu fidèle à lui-même. C'est-à-dire que, bah voilà, il faut juste qu'il chope ton rythme. Et si toi-même tu veux engager, bah voilà, ça peut faire des échanges dans lesquels Nate tire son épingle du jeu. Et je serais très curieux aussi que ça aille au sol, puisque c'est Manuel Ferrara, Manu, qui disait ça du coup dans le live qu'on a pu faire à un moment donné aujourd'hui pendant le pandémonium. Et bah du coup Manu était en mode, en plus si ça va au sol, c'est vraiment intéressant parce que c'est deux écoles l'une contre l'autre. C'est l'école Gracie pour Nate Diaz, donc entraîné par César Gracie et qui porte en extrêmement haute estime, enfin comme tous les gens du MMA, la famille Gracie et particulièrement du coup les frères Renzo, Royce, Royler, etc. Et l'école Eddie Bravo, qui est donc l'école chez laquelle s'est entraîné énormément et a développé son style.
Et est revenu
Tony Ferguson. Donc voilà, il y a vraiment ces deux écoles qui s'affrontent. C'est génial parce que voilà un vrai combat d'adieu de Nate Diaz contre quelqu'un qui est une vraie légende, un vrai vétéran. Et en plus, ça risque d'être plus compétitif que contre Khamzat. Que du bonheur, que du bonus, c'est génial.
Que demander de plus ? Moi, je pense plutôt, je vais plutôt du côté d'une victoire pour Tony Ferguson. Pourquoi Tony Ferguson ?
Pourquoi ?
C'est parce que je pense, à la manière de Michael Chandler, que là, on est sur quelqu'un, et encore un petit peu plus, qui va permettre à Tony Ferguson de s'exprimer. Parce que pourquoi ça n'avait pas marché ? Que ce soit Justin Gaethje, que ce soit Benil Dariush, que ce soit Charles Oliveira, c'est parce que Tony Ferguson, c'est quelqu'un qui a besoin de trouver son groove, de trouver son rythme, qui trouve... Quand ça se passe bien, au fil des minutes, au fil des c'est rounds, vrai. Jusqu'à ensuite vous dépasser complètement.
C'est vrai.
Tous ces gars-là avaient réussi à le mettre dans une situation où il rentrait jamais vraiment dans son combat. Contre Michael Chandler, jusqu'au KO, ça se passait plutôt bien pour Tony Ferguson. Il gagnait le premier round avec un knockdown, et le deuxième, bon, mais il s'est passé ce qui s'est passé. Mais avant qu'il se passe ce qui s'est passé, ça allait très bien pour Tony Ferguson. Là, moi, je pense qu'un gars comme Nate Diaz, c'est quelqu'un qui, certes, peut poser des soucis à Tony Ferguson sur les premiers et deuxièmes rounds, et même si Tony Ferguson, à mon sens, va pas mettre en état de nuire Nate Diaz, donc à savoir le finaliser, je pense que c'est quelqu'un qui ne va pas empêcher Tony Ferguson de trouver son groove. Et donc c'est pour ça que je pense que Tony Ferguson va s'imposer par décision unanime face à Nate Diaz, et je pense quand même qu'on aura une guerre.
Ouais. Ah, c'est intéressant, parce que pourtant, c'est vrai que la boxe en combinaison et en volume de Nate Diaz, ça peut quand même salement te couper dans ton inertie et dans ton rythme. Mais ouais, ça va être vraiment super intéressant. Enfin, honnêtement, j'ai hâte d'y être, tu vois. Vraiment hâte d'y être, et les combats m'excitent plus maintenant qu'ils m'excitaient avant.
Mais oui, c'est pour ça que nous, il y a certaines personnes qui m'ont dit « Mais vous n'êtes pas trop dégoûté par le fait que ça ait changé ?» Bah moi, je suis très content,
ouais.
Parce que justement, là, il y a du suspense par rapport au combat.
Ouais.
Il y a toujours le bad blood qu'il y avait, parce que c'est ça aussi. Là, il y a des combats qui sont sportivement intéressants, et en plus, le Kevin Holland, Khamzat Chimaev, là, il y a de la vraie tension. On a l'impression en plus que l'UFC, le fait qu'il soit sur la même carte, il préparait au cas où, on sait jamais avec l'UFC, qu'il y ait un affrontement d'ici quelques années, quelques mois entre les deux hommes. Là, ça a lieu maintenant. Vous avez vu la pesée qui était la plus animée entre deux, donc là aussi, ceux qui aiment bien le trash talking et tout ça en auront pour leur argent. Et pour et puis pour Tony Ferguson et Diaz, c'est deux légendes qui s'affrontent. Moi, je trouve que c'est bien. En plus, voilà, il y a aussi ce côté de gars qui sont plutôt des lightweight naturels, qui se retrouvent en welter en ayant quand même fait un vrai processus de montée puisqu'ils devaient être tous les deux dans cette catégorie. Enfin, pour moi, ça coche toutes les cases et j'ai pas non plus cette peur pour l'un comme pour l'autre qu'il y ait un énorme faceplant.
Moi,
tu penses que Tony Ferguson, il peut... Attends, non, quand je dis ça, c'est parce que Tony Ferguson, il avait débuté à l'UFC chez les welterweight et quand il avait fait le tough, il avait mis KO tout le monde.
Ouais, de ouf. Oh, franchement, l'un ou l'autre, je pense qu'ils peuvent se mettre KO. Hein.
Ok.
En vrai, je pense que l'un ou l'autre peuvent se choquer. Choquer.
Et d'ailleurs, bébé, réponse, on a une samedi et dimanche, mais Rusty, quel est ton pronostic?
Oh. Bah, je vais mettre... Daniel Rodriguez.
Mm-hmm.
Parce qu'il fait salement mal quand même, même si, oh là là, Li Jinglong, maintenant je le kiffe, enfin maintenant, j'ai jamais eu quoi que ce soit contre ou
ah, il a eu une sale semaine, le pauvre.
Sale semaine.
Le gars s'achète un costard pour la conférence de presse.
C'était trop mignon.
Non, toi tu repars.
En plus, c'est horrible parce que je sais pas si t'as vu, dans les MBD, c'était terrible, il est tellement mignon, il était en mode...
T'es trop content.
Et ça, c'est le costume que je vais mettre pendant la conférence de presse, ah, avec des petits clins d'œil et tout. Et puis non. Et en plus, c'est le pire parce que lui, on l'a vu... commencer à rentrer derrière le rideau, et là il y a le mec qui fait non,
il fait salut, il fait salut, il lui prend son bras,
c'était trop mignon mais horrible. Et puis du coup il perd le combat qu'il avait initialement aussi contre Tony Ferguson, ce qui était quand même une beaucoup plus belle affiche pour lui que Daniel Rodriguez. Donc vas-y, tu sais quoi, non, je vais mettre Li Jingyang
pour son costume.
Oui,
non, moi je mets aussi Daniel Rodriguez, je mets Daniel Rodriguez par décision unanime.
Bah, moi, je mets Li Jingyang par KO round 2.
Wow! Comment event, Big Rusty?
Bah, je mets Khamzat. Hein.
Moi aussi, Khamzat, TKO round 3.
Khamzat, TKO round 1. Ah, ça peut aller très...
Mais parce que tu vois, c'est ce genre de truc-là. En fait, pour moi, ça peut passer aussi par là. T'imagines, il termine Kevin Holland en 30 secondes.
Ouais, mais là, pour moi, c'est plus une histoire de performance... Là, pour moi, c'est vraiment une histoire de...
D'attitude.
Ouais, de comportement que je pense les gens n'ont pas kiffé. Okay. Et je sais pas si ça pourra se remettre avec une performance, tu vois.
On verra bien, mais oui, tu marques un point. Le main event, Beyoncé.
Ben, je vais mettre Nate Diaz. J'espère... Enfin, bon, vous avez compris pourquoi je dis ça. C'est pas pour leur souhaiter du mal, mais j'espère une guerre simplement pour la légende. Et un vrai combat comme seuls savent en faire Nate et Khabib et Tony. Et je mets Nate. J'espère que l'un ou l'autre va quand même pas se faire planter. Donc je vais dire... Tu sais quoi? Je vais dire soumission Nate round 3. Ouais, j'espère des superbes scrambles.
Et ben réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Moi j'avais mis Tony Ferguson.
Okay.
J'avais mis Tony Ferguson et je pense même pas qu'il y aura des scrambles. En fait, je pense que les deux vont pas prendre le risque. Parce que comme il y a quand même... beaucoup de dangers de part et d'autre, et qu'on a vu Nate Diaz, enfin moi j'étais le premier surpris face à Leon Edwards, peut-être que le côté, enfin à mon avis il y avait aussi un aspect psychologique face à cet adversaire qui disait clairement faut jamais aller au sol. Leon Edwards, je pense qu'il a ouvert une toute petite brèche, et je pense que mineur, Nate Diaz reste quand même très dangereux, et je pense que ni Tony Ferguson ni Nate Diaz n'ont envie de tester un peu le niveau de l'autre en ce moment, dans ce domaine-là.
Ah, je sais pas.
Tu penses?
Moi j'aurais tendance à dire justement qu'ils ont envie de se tester au contraire, tu vois. Pour prouver que. Mais, réponse...
Réponse dans quelques heures.
Ouais.
Allez, attends. Je crois qu'on a oublié un truc. Putain, je crois qu'on a oublié un truc. Ah, putain, Nate Diaz, Tony Ferguson. Oui, voilà. Et dernier point, et pas des moindres, Big Rusty, c'est qu'on a écouté l'interview de Nate Diaz accordée à Megan Olivier d'ESPN où il a dit que ça pourrait bien ne pas être son dernier combat, finalement.
Bah... à l'UFC. En tout cas, c'est son dernier combat. Mais, ah oui, après, il a toujours été ouvert par rapport à ça. Il a toujours été en mode « Moi, Jake Paul, il n'y a pas de problème. » Tellement Nate Diaz de dire ça. « Moi, Jake Paul, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est pas lui qui va me payer, c'est moi qui vais le payer. » C'est tellement du Nate Diaz. Mais, ouais, du coup, Megan Olivier, il était en mode « Bah voilà, ce sera pas mon dernier combat. » Enfin, ici, oui, mais pas mon dernier combat, peut-être, on va voir. Mais ouais, parce que, de toute façon, c'est la raison pour laquelle il veut être libre, quoi. C'est parce qu'il veut pouvoir faire ce qu'il veut de sa vie, quoi.
Et voilà. Big shout out à my sweet pea, my sweet protein. Moins 33% sur tout my protein avec le code La Sueur. Et si vous voulez nos fringues, c'est sur lasueur.store. See ya, Big Rusty.
Qu'est-ce que tu m'offres, là?
Hop. Investir dans des entreprises est déjà monnaie courante. Mais avez-vous entendu parler du fait d'investir sur la carrière de talent? Grâce à Royalties, investissez dans des combattants UFC, MMA, boxe pour obtenir jusqu'à 19,5% de rendement annuel.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.